La collective. L'émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas.
Tous les deuxièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
J'ai tendance à considérer que les femmes les plus marginalisées, à savoir les femmes pauvres, handicapées, les femmes LGBTQIA+, les femmes non blanches, doivent être au centre du féminisme parce que ce sont les torts que leur font les différentes oppressions qui doivent, pour moi, guider notre sensibilité au sort des femmes.
Soulevez-vous, faites ce dont tout le monde a besoin. Vous, vous en avez besoin. Nous, on en a besoin. La génération future qui va arriver en a besoin. Et donc, c'est maintenant.
Que les femmes ne sont pas condamnées à être les premières victimes, mais qu'elles peuvent être des combattantes de première ligne. Et qu'elles ont toujours joué un rôle d'avant-poste dans les révolutions sociales.
Bonjour. Aujourd'hui, sans surprise, on a Hello.
Salut.
Alizé.
Salut Vanessa.
Et Clara à la technique.
Salut.
Alors au départ, on voulait faire une émission légère pour clôturer la saison. Une émission joie, rire et chanson qui parlerait de ce qui nous nourrit. Mais force est de constater qu'on a la digestion un peu difficile. On a quand même rendu nos desserts de fin d'année, mais entre une qui pleure tout le temps et deux qui n'aiment pas la joie, il y a peut-être quelques hors-sujets. Mais heureusement, il y a les blagues de Coco, qui sont tirées de la super BD « Coco n'aime pas le capitalisme » et qui vont rendre tout ça un peu plus digeste.
Jingle.
Dans l'espace, personne ne vous entendra et de toute façon, on ne peut plus rien dire.
Houston, ici Cooper, nous avons un problème. Le module externe est complètement HS.
Gardez votre calme, Cooper. Avez-vous regardé si le problème venait des migrants ?
Bien sûr, vous me prenez pour qui ? Vous pensez qu'après le wokisme, c'est la première chose que j'ai vérifiée ?
Désolé, Cooper, ce n'est ni l'un ni l'autre. Nous sommes démunis. J'ai bien peur que vous ne soyez livré à vous-même.
Mais avant nos dissertes, un peu de copinage et d'auto-congratulation avec un retour sur le 8 mars organisé par les Renouées à Privas. Et toute ressemblance avec des voix que vous connaîtriez serait purement fortuite.
Nous savons que nos droits ne sont jamais acquis pour toujours. Droit de vote, droit de vivre librement sa sexualité, droit à la contraception et à l'avortement, droit de travailler, droit des enfants, droit à l'éducation pour tous, droit à la transition de genre. Droit d'être reconnue victime de violences et de discrimination. Droit à un salaire égal, à travail de valeur égale. Dans de nombreuses régions du monde, ces droits fondamentaux ont été attaqués et parfois supprimés par des gouvernements d'extrême droite au profit de projets politiques mortifères. Le planning familial alerte face à une situation internationale marquée par la mise en œuvre de politiques autoritaires, ultra-conservatrices et racistes qui s'attaquent au droit à l'avortement, à la contraception et plus globalement à tous les droits sexuels et à la justice reproductive, ciblant sciemment les femmes et les personnes minorisées. Le planning familial, les CIDFF, les centres de santé sexuelle sont devenus les cibles des organisations et partis d'extrême droite parce qu'ils informent et permettent l'accès à la contraception, à l'éducation, à la vie affective et relationnelle, au droit de choisir sa sexualité et d'affirmer son identité de genre. Ces structures, principalement présentes au milieu rural, assurent de nombreuses missions essentielles. L'extrême droite défend, à l'inverse, une politique nataliste où les femmes ne sont que des ventres et les hommes des futurs soldats ou des forces de reproduction assurant leur richesse. Cette situation ne doit pas se normaliser et se propager. Ne restons pas les bras ballants face à ces vieux cons qui protègent leurs petits privilèges. Les féministes emmerdent l'extrême droite.
Les États-Unis et Israël commencent à bombarder l'Iran et la Maison-Blanche diffuse des vidéos des bombardements avec la Macarena en fond sonore. Depuis octobre 2023, 75 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont un quart d'enfants, mais ce sont les manifestations de soutien à la Palestine qui sont réprimées. En France, le barrage contre l'extrême droite se transforme en barrage contre la gauche. Aurore Berger, ministre de l'égalité homme-femme, reprend le terme d'anti-France, inventé par le régime de Vichy. Nemesis, un collectif raciste et nationaliste, tente d'infiltrer nos manifs, instrumentalisant le terme de féminisme. Une minute de silence est observée à l'Assemblée nationale pour un militant néo-nazi. L'antifascisme devient le nouveau fascisme. C'est à la gueule d'un mauvais film dystopique, tout ça. Mais c'est quoi notre place en tant que féministe dans ce bordel ? Il y a des choses qu'on apprend en étant femme ou minorité de genre. On apprend que les inégalités, les discriminations et la violence traversent la société. On apprend la douleur que peuvent causer les stéréotypes, la souffrance liée au silence. On apprend à se méfier des puissants. On forge sa rage face aux injustices et on apprend la force que l'on peut trouver dans le collectif. Cette expérience, elle ne doit pas nous pousser à lutter uniquement pour notre sort sur les enjeux purement féministes. Au contraire, elle doit nous pousser à lutter aux côtés de toutes celles et ceux qui subissent violence et injustice, domination et précarité. Aux côtés des pauvres, des femmes de ménage, de celles qui se font tuer par la police à Minneapolis ou à Nanterre, aux côtés des travailleuses du sexe, des personnes trans, handy, de celles et ceux qui subissent les violences racistes ou antisémites. Aux côtés des Palestiniens et des Palestiniennes, des Iraniens et des Iraniennes tués par un régime sanguinaire ou par les bombardements américains et israéliens. Aux côtés de celles qui pointent à l'usine, qui ramassent des salades dans les serres de Provence ou des papiers sales dans les rues de Paris pour un salaire de misère. De celles qui cherchent désespérément un médecin traitant dans un fucking désert médical, de celles qui élèvent seules leurs enfants. Aux côtés de celles qui n'ont pas de papier, pas de maison, pas de thunes. Bon, on a promis une prise de parole pas trop longue, alors on doit arrêter cette liste, alors qu'il y aurait encore tant de personnes à citer. Mais vous avez compris ce qu'on veut dire. Le féminisme, il se doit d'être aux côtés de celles et de ceux qui galèrent, jamais aux côtés des puissants.
Notre volonté de barrer la route au fascisme avec les autres forces progressistes. Le féminisme lutte contre les rapports de domination, alors notre camp ne peut être que celui de l'antiracisme. Se rencontrer entre vallées, travailler ensemble, entre collectifs, syndicats, associations, échanger et renforcer un réseau militant nous semble à la fois stimulant et nécessaire. On se demande régulièrement comment lutter en milieu rural, quand on peut avoir le sentiment d'être loin des lieux où les choses se font, se décident. Et pourtant, si on regarde un tout petit peu en arrière, les militantes féministes ont fait bouger les lignes ici en Ardèche. Des mères solos s'organisent pour défendre leurs droits, des associations accompagnent les femmes victimes de violences intrafamiliales, des bibliothèques féministes font circuler la pensée de village en village. Des formations d'autodéfense aident les travailleuses à se défendre face aux agressions sur leur lieu de travail. Et ça pour ne citer que quelques exemples. À travers tout cela, on apprend à identifier les rapports de pouvoir. On apprend à s'écouter, à prendre soin les unes des autres. On tisse des amitiés solides qui nous accompagnent bien au-delà des manifs. On apprend à se remettre en question aussi. À repérer que nos organisations peuvent être excluantes, car nous ne sommes pas exemptes de biais racistes, validistes, classistes et même sexistes. Alors continuons à essayer, à tenter, à nous remettre en question pour ne pas laisser des camarades sur le bord de la route. Chacune de ces actions, de ces moments nous renforce et nous prépare à renverser le système. Et renverser le système, ça commence demain, parce que le 8 mars, c'est la grève féministe. C'est la grève du travail, mais aussi des tâches ménagères et de la consommation. Parce que quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Merci. Si Madrid cala primera,
disent que nos seules présences dans la rue, le métro, les stades, les bars et les cafés, les bureaux, les hôpitaux, les parlements et les maternités, nos seules présences sont de trop. It's time to unite. Nos existences tout entières sont des révolutions, nos vies des poings serrés, nos voix, colère orageuse, crient non. It's time to unite, time to protest. Ce n'est plus à nous de nous taire, à eux de le faire. La lutte est ici, là-bas et maintenant. La bataille a lieu dehors, elle a lieu dedans, à l'intérieur de nos groupes, aux bordures de nos incohérences. Au croisement de nos contradictions, il est temps, temps d'éteindre les feux orgueilleux, abandonner nos prétentions au titre de la parfaite fouine. Ce n'est pas le tatou dans le dos, les cheveux longs, rasés, le piercing dans le nez, ce n'est pas l'intégrale lecture d'Audre Lorde, de Monique Wittig. Pas nos plans à trois, nos cours de yoga, nos bières spéciales, nos danses à poil. Rien de tout ça ne fait ce que nous sommes. Nous sommes communauté, le génie de toutes ces choses mélangées, constamment questionnées, toujours réinventées. Nous sommes capacité à changer, à aimer, à construire et, surtout, à marcher ensemble. Malgré. Parce qu'il n'est désormais plus question qu'il parle à notre place, plus question qu'il décide pour nos ventres, tranche nos salaires, plus question qu'il nous dise quelles lèvres embrasser, quel corps enlacer, quelle chatte lécher.
Bon, on a dit qu'on parlait de joie, mais il se trouve que cette expression « joie militante », comme c'est éminemment politique, c'est des expressions qui me gratouillent un peu en ce moment. Je vois bien à quoi ça fait référence, la joie militante, pour l'avoir sentie dans mon corps. L'élan qui me porte quand je braille avec les copines, les gâteaux et les cafés partagés au petit matin sur un rond-point, la foule qui t'embarque quand tu vas manifester à la grande ville, mais aussi et surtout les amitiés si fortes qui se créent autour du militantisme. Je vois bien, et je crois que je vois à quoi ça sert de la défendre. Je me revois aussi dire à Hello, le 25 novembre dernier, qu'on n'a pas le droit d'être défaitiste, que le féminisme, il a remporté de vraies victoires ces dernières années. J'ai passé l'année à me répéter ça comme un mantra, et dans le même temps, je voyais mon envie de militer se rapetisser, se recroqueviller. La fatigue me prendre à la simple lecture de mail. Alors je dois avouer que la joie militante, ça m'a semblé un peu loin de moi cette année. C'est un privilège de pouvoir se retirer de la lutte quand on est à l'abri des bombes, des licenciements, des expulsions, qu'on a un toit sur sa tête et des revenus. Et je n'ai pas du tout envie de me résoudre à ce retrait, alors que j'ai le privilège inverse, celui de pouvoir m'engager, de pouvoir consacrer du temps à cela dans mon quotidien. Il y a urgence, pas besoin de vous lister les combats à mener. Et puis, comme le dit le peut-être premier mec cis cité dans la collective, Hugo Paglietta, les fascistes nous veulent déprimer, sidérer et isoler. La réponse, c'est l'action collective. Comme dans sa phrase, il dit collective, je me suis dit que ça passerait. Alors, plutôt que de parler de joie militante, je crois que j'ai besoin de parler de désir. Qu'est-ce qui peut nous mettre en mouvement? Quel est le moteur de nos luttes en ce moment? Et c'est là, concernant le féminisme, que je comprends un peu mieux pourquoi j'ai perdu un peu l'envie. Le féminisme, et c'est une grande victoire, a infiltré toutes les sphères de notre société. Il est dans toutes les bouches, que ça soit pour s'en revendiquer ou pour le dénigrer. Même l'extrême droite, on en a pas mal entendu parler dernièrement, s'est emparée du terme. Alors, nous, on crie que le féminisme est un antifascisme, on dénonce la tromperie. Mais peut-être qu'on ne s'interroge pas assez, comme le dit Elsa Deck-Marceau et d'autres avant elle, sur ce qui fait que l'extrême droite a pu s'emparer de ce terme. Elle dit « L'absence de résistance face au renforcement du pouvoir coercitif de l'État est frappante, y compris dans les sphères féministes blanches et à gauche, jusque dans l'extrême gauche. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'essor récent d'un pseudo-féminisme d'extrême droite. C'est le cadre même du débat qui est vicié. En acceptant de se situer sur le terrain de la punition et de la répression, le féminisme a contribué à rendre possible cette imposture politique. Dans la bataille culturelle actuelle, l'anti-punitivisme n'est pas un luxe théorique. Il constitue une nécessité politique. L'anti-punitivisme est un antifascisme. Alors dans ce livre, elle s'intéresse à la manière dont le féminisme majoritaire s'est emparé des questions de violences sexistes et sexuelles et comment la réponse pénale est devenue centrale dans ce combat. Elle rappelle aussi que là où la répression frappe en priorité les populations racisées et populaires, la protection promise ne bénéficie en réalité qu'à une minorité de femmes. Son livre, il me pose plein de questions, notamment sur comment agir à court terme dans une société où le tissu social est si fragilisé et alors qu'il y a une urgence absolue à protéger, notamment les enfants. Mais la lecture de ce livre, elle m'a aussi permis de mettre le doigt sur quelque chose. Ce qui me manque dans les combats féministes aujourd'hui, c'est la certitude de se battre pour un projet émancipateur pour toutes. Et que cela s'inscrit dans un projet plus large, le plus éloigné possible de la promesse sécuritaire et mortifère de l'extrême droite. J'ai l'impression que militer, c'est aussi aller sur des terrains inconfortables, se frotter à l'altérité et accepter la remise en question. Investir d'autres espaces militants comme le syndicalisme. Venir avec nos savoir-faire féministes, mais aussi apprendre, faire preuve d'humilité, sans renoncer à prendre place. Je crois qu'en ce moment, on a besoin d'écouter beaucoup, pour faire tomber quelques barrières symboliques qui empêchent le dialogue. De retrouver un peu de souplesse dans nos échanges, pas pour renoncer à la radicalité, mais justement pour mener le combat beaucoup plus loin. La joie, je crois, viendra aussi de la certitude d'aimer ce pour quoi on se bat. Et je m'éloigne un tout petit peu du militantisme pour vous parler de trucs qui m'ont donné de l'élan cette année. Alors, celles et ceux qui me connaissent me voient venir de loin, parce que j'ai bien bassiné tout le monde avec ça, mais tant pis, j'en remets une couche. Le foot. On a monté une équipe de meufs dans le club de mon village, et encore merci Titi pour ça. Et ce terrain a accueilli mes peines, mes colères, mes joies et mes espoirs. Ça fait très sentimental, mais en fait je le pense, et je sais que c'est vrai pour d'autres. J'y ai rencontré des personnes à qui je n'aurais jamais pu parler sans ce terrain, sans ces vestiaires. Des joueuses qui sont devenues des copines, et puis des gens du village, plus loin de mes cercles affinitaires, avec qui je n'avais pas échangé plus de 10 mots alors que ça commence à faire longtemps que j'habite dans ce village. J'ai la certitude que cette équipe fait que des petites choses bougent, en nous et autour de nous, et dans le bon sens. Que ça soit du foot ou autre chose, peu importe, faire des trucs ensemble, il n'y a rien de mieux. Bon, je sais aussi qu'on a du taf, et pas qu'un peu, pour que chacune puisse se sentir à l'aise de venir taper dans le ballon sans avoir peur, par exemple, de subir du racisme ou de la transphobie. Alors, au risque de me répéter encore une fois, il s'agit de ne pas laisser des copaines sur le bord de la route. L'autre chose dont j'ai envie de parler, sans surprise, c'est la radio. Des voix qui m'ont accompagnée cette année, des rencontres faites grâce à elles, et bien sûr, des heures partagées avec mes incroyables membres de la collective. Dans le livre « La voix sombre », Ryoko Sekiguchi écrit « Sur nos tympans sont gravées les voix de certains êtres dont on aurait voulu ne jamais être séparés. À la manière d'un épitaphe ou d'un tatouage, elles sont inscrites dans notre corps. Gravées est le mot juste. Certaines voix ne nous quittent pas, elles font partie de nous, comme certains regards qui nous ont traversés. On ne les conserve pas simplement dans sa mémoire, on les conserve dans son corps, dans la chaleur de son corps, bien que je ne sache pas exactement où. Oui, la voix a ce pouvoir, et l'enregistrement a celui de réunir des gens. Évidemment, il y a beaucoup de voix radiophoniques qui œuvrent plutôt dans le sens inverse, mais je n'ai pas envie d'en parler ici. Je veux plutôt vous partager une écoute à retrouver sur Arte Radio. Ça s'appelle « Malheur niveau 2 ». Alors, avant que vous ne me disiez encore que je n'ai pas compris le thème de l'émission, sachez que le titre est trompeur. Ce n'est pas que rigolo, certes, mais de la joie, c'est sûr qu'il y en a. On découvre Violette et ses comparses, qu'elle a rencontrés grâce au dictaphone de son téléphone, sans même l'avoir prévu, alors qu'elle était internée en hôpital psychiatrique. Ça parle assurément de force collective, de rencontres et de la magie de l'enregistrement. Et je crois que c'est un peu politique.
Il y a de la puissance dans la joie. Elle est un bouclier contre les mensonges. Une manière de se rappeler que tout n'est pas figé. Nos corps, nos imaginaires, nos émotions peuvent se libérer des carcans imposés. Elle est transformation, elle est interruption. Elle casse les cycles de la peur, elle renverse les logiques de domination. Elle ne demande pas la permission. La joie n'est pas une distraction, elle est un outil, une méthode, une stratégie. Elle est aussi une tradition politique, une pulsation qui traverse les mouvements progressistes, les espaces d'émancipation, les cultures de lutte. Elle s'incarne dans les carnavals populaires, dans les cortèges festifs, dans les fêtes queer, dans les soirées militantes, dans les rassemblements communautaires et dans les contre-cultures. Comme l'évoque Arnaud Hidlon, on la retrouve dans les jukebox noirs, dans les sound systems, dans les clubs, dans ces lieux où les marges inventent des mondes habitables malgré tout. Cette joie n'est pas désincarnée, mais bien politique, poétique, incarnée. Elle jaillit de notre volonté de rester vivante, tendre, lucide, dans un monde qui nous voudrait docile ou mort. Elle est le prolongement du cri, la lumière qui succède au feu. La joie, c'est aussi ça. Un art de vivre ensemble, de résister ensemble, de créer des espaces d'existence où la beauté, la liberté, la créativité ne sont pas secondaires mais centrales. Elle est politique parce qu'elle refuse de céder le terrain de la vie aux logiques de domination. Alors oui, cette joie ne se donne pas aisément. Il faut aller la chercher avec les dents. Elle se cache sous la peur, sous la violence, sous les injonctions, sous la honte parfois. Elle demande du courage et de la détermination. Elle est moteur mais aussi un devoir. Un engagement envers nous-mêmes, envers celles qui viendront après nous. Une promesse que le feu ne s'éteindra pas. Refuser la joie, c'est parfois collaborer sans le vouloir à notre propre effacement. C'est accepter que tout ce qui vit en nous soit secondaire, accessoire, inutile. Alors non, je n'accepte pas. Je refuse la résignation. Ma joie ne nie pas la colère, elle ne la dilue pas. Au contraire, elle la complète, l'honore, la prolonge. La colère est un réflexe sain, une réaction immédiate, viscérale, humaine, la manifestation brutale de la vie qui refuse d'être piétinée. C'est la dignité qui hurle, qui se cabre, qui dit non. La colère nous arrache au silence, elle nous redresse. Elle est l'électrochoc. Toutefois, la joie est ce qui nous permet de rester debout après ce sursaut. Elle transforme l'indignation en trajectoire. La joie ancrée, la joie décidée représente une manière d'habiter ce monde sans renoncer à le changer. Elle ne s'oppose pas à la rage, elle la nourrit d'un horizon. Elle rappelle que nous ne sommes pas que les enfants de la perte, nous sommes aussi les enfants du désir. Et ce désir-là, celui de la beauté, celui de justice, de liens vrais, est plus ancien que toutes les guerres. C'était un extrait de Pour la joie de Kiémis, et je remercie Lucille de cette lecture conseillée.
La fête est nulle,
la fête est nulle.
Tout le monde est mal dans sa peau. Tout le monde fait tellement d'efforts pour que la fête soit nulle. Et tout le monde y arrive bien. La fête est nulle,
la fête est nulle.
On aimerait tellement aller se coucher. On fait tellement d'efforts pour faire les cons alors qu'on aimerait tellement pouvoir se calmer.
Refrain.
La fête est nulle, la fête est nulle. La fête est nulle. C'est le pire moment de la semaine. Tout le monde se dit que c'est de sa faute, qu'il sait pas profiter. Car cette fête est nulle.
Cette fête est nulle.
Elle est prodigieusement nulle. On aurait mieux fait d'aller se détendre au travail.
Au travail.
La fête est nulle.
C'était La fête nulle de Alice. Le véritable fléau de l'humanité.
J'ai calculé un truc étonnant l'autre jour. Quelqu'un qui gagnerait 200 euros par heure et qui travaillerait 35 heures par semaine depuis la naissance de Jésus, sans prendre de vacances, sans dépenser le moindre centime, ne serait à l'heure actuelle pas encore milliardaire.
Donc on est d'accord, c'est bien les 35 heures qui plombent notre compétitivité à l'international. À la collective, on parle souvent de la lutte collective comme d'un outil qui nous semble indispensable pour viser un changement de société. Alors bien sûr, transformer le monde, ça reste l'objectif primordial, mais si je dois dire la vérité, lutter comporte en soi ce qu'on appelle dans le médical des bénéfices secondaires, sorte d'effet indésirable mais plutôt positif. Ce que je trouve au sein du collectif, c'est d'abord de la force et une énergie commune assez contagieuse. Évidemment, c'est ça qui nous porte pour tenter des trucs. Mais ce qui est moins évident à voir, c'est la confiance que ça nous donne en nous. On n'atteint pas seulement des objectifs qu'on s'était fixés, on se prend à outrepasser notre imagination, à déplacer vraiment nos limites. Parce que c'est un endroit où on croit en vous, et ça, ça donne des ailes. On rentre en lutte contre quelque chose, et on finit par lutter pour autre chose. C'est aussi l'endroit où on abolit la hiérarchie concernant les qualités et les compétences de chacune. Personne ne les possède toutes, mais chaque qualité mise bout à bout, c'est un banger. Et si vous ne les voyez pas, vos qualités, vous inquiétez pas que les autres vont vite les détecter. Tout ce qui peut servir d'arme contre l'ordre établi, ça passe pas sous les radars. C'est aussi des moments où on rit beaucoup, qui a dit trop. Et vous savez que là-dessus, on mentirait pas. Sans rigolade, on n'y serait pas. Nous, on veut bien accepter qu'on gagnera pas à tous les coups. Par contre, c'est pas moyen de rentrer de la campagne sans blague et sans anecdote. Et pareil pour les réus. On veut bien se la donner pour être efficace, mais on est d'accord que la blague qui va bien, elle a sa place dans le tour de parole. Et le moment est jamais trop grave pour l'humour, au contraire. C'est de la bombe anti-stress, c'est ce qui sauve de l'auto-épuisement et même de l'épuisement tout court. Et c'est aussi l'endroit qui va nourrir nos analyses. Il n'y a pas mieux qu'une discussion avec une camarade pour confronter ses opinions, se poser des questions sur sa posture, enrichir sa réflexion, la confronter au réel. Bref, tous les moments sont bons pour faire pédaler le petit vélo dans nos têtes. Enfin, du coup, c'est sûr que si vous recherchez la tranquillité, les endroits de lutte collective, c'est pas l'idéal. Et que ça demande du temps et de l'énergie. Mais franchement, quand on fait le bilan, c'est comme avec une dynamo. Oui, c'est thématique vélo, c'est pour Alizé. L'énergie qui en ressort est décuplée. Et ça, faut pas le dire aux capitalistes. Ils font feu de tout bois, ceux-là. Faut que ça circule en interne, c'est seulement pour servir la cause. Hein. Et surtout, c'est vraiment l'endroit où votre colère, celle qui vient du refus de se résigner devant des trucs qui tournent pas rond, bah non seulement elle est comprise, voire partagée, mais elle se transforme en force d'action. Tadam ! Incroyable. Dans la vie de tous les jours, t'es vindicative et râleuse. Dans le militantisme, t'es juste super engagée. En soirée, tu chantes faux. En manif, tu énergises les foules avec ton mégaphone. Même pleurer, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un super pouvoir libérateur. Enfin, vous avez compris, c'est déclinable à l'infini. C'est l'endroit où apparaît la meilleure part de nous-mêmes. Mais quand l'énergie nous fait défaut, quand il y a un gros coup de mou et besoin de prendre du recul, bah, il n'y a pas meilleur que les copaines de lutte. Ça vous soutient et vous déculpabilise comme personne. Bon, en lisant les copies des copines, je me demande si je fais preuve de tant d'honnêteté qu'elles, si je donne pas une version trop édulcorée du militantisme. Alors je relis ma copie et je vois bien que le grand A qui dit lutte égale joie, est vachement développé au détriment du grand B, mais pas que. Mais je décide quand même, c'est tout l'intérêt de faire sa chronique après tout, que sans occulter ce qui nous plombe, aujourd'hui je redonne sa juste place à ce qui nous irrigue et rend la mobilisation non seulement possible, mais jouissive. Et que j'ai envie de profiter de cette émission pour dire à mes copaines de lutte toute la kiffance que c'est de lutter à leur côté. Et que si on n'arrive pas à faire un monde plus beau, ben le temps passé à essayer de le changer, il vaut bien quelques réus relous et quelques piétinements. Et au terme de joie militante, je préfère ceux d'humour salvateur, de force de vie et de solidarité.
C'est bon ? Quand tu veux.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir tout le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, capitalisme et ta magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvrière ou bien paysanne, travailleuse de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Patron, gouvernement, capitalisme et ta magistrature, Église, parlement, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ah, c'était harmonieux.
Merci Fanny.
Biodynamo libéralisme.
Mon plan de relance consiste à alléger les charges des entreprises.
Stop, et... c'est fini, on arrête avec tes propositions. Maintenant, tu laisses la place à quelqu'un d'autre qui a lui aussi des croyances basées sur rien. C'est chacun son tour.
Mon plan de relance consiste à enterrer des cornes de vache remplies de bouse, mais seulement les nuits de pleine lune.
Oh là là, c'est notre émission Feel Good et j'ai jamais autant galéré sur une chronique. Je me connecte régulièrement sur le pad avec le titre « Ce qui nous nourrit », joie, rire et chanson. J'inscris « Passer les vulves assassines » et j'arrive rien à trouver de mieux. Puis, mon âme de célibataire à chien aigri se réveille et une chronique prend forme. J'aurais qu'à dire du mal de la joie. Ça y est, me voilà inspirée. Je vais vous raconter comment ça me saoule cette histoire de la joie qui est éminemment politique. Je gratte mon carnet pendant mes vacances en Corse, toute satisfaite de mon esprit critique. Après, je me connecte pour écrire ça sur le pad et bam, Alizé m'a devancé sur le mauvais esprit et elle est saoulée aussi par la joie éminemment politique. Je suis super contente d'une telle connexion dans nos visions révolutionnaires, mais je suis bien emmerdée parce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter alors ? Bon, mais je décide de braver le risque de répétition parce que je voudrais pas me priver d'un public captif à qui raconter mes vacances en Corse. Donc, deuxième moment anti-joie de l'émission Feel Good et plongée dans les vacances à Vanesse. Troisième jour, visite de Bonifacio, capitale intergalactique, au moins, des couples de richoux en coupé décapotable. Dans cette ambiance meeting de LR, s'étalent sur les murs de la ville les affiches de la Biennale d'art contemporain « Ninu dormi », soit « Personne ne dort en Corse ». Une phrase en gros caractères dans le bas de l'affiche « La révolution sera une fête ou ne sera pas. Guy Debord ». Oh là là, il n'en fallait pas plus pour réveiller mon âme de célib à border collie aigri et je manque de dégueuler sur les mocassins en cuir du couple voisin fraîchement sorti de sa décapotable. Mais l'appât de la bière gratuite est plus forte que la nausée, l'aigreur et la révolte. Et avec mon binôme de vacances, on leur emboîte le pas en direction de la biennale, de la fête et donc, a priori, de la révolution. On déguste des focaccia mortadelle pesto devant une performance de deux artistes brésiliens qui mixent capoeira et voguing. Le voguing, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de résumer en trois phrases. Je dirais que c'est un style de danse qui est apparu dans les années 60 aux États-Unis dans la communauté noire LGBT. À cette époque, les espaces de fête y sont rares et précieux pour les queers qui subissent de plein fouet homophobie, transphobie et répression policière. Quelques lieux de fêtes queer existent, mais les personnes noires en sont très souvent exclues. Alors Yael décide de créer leurs propres espaces de fêtes, les ballrooms. Dans ces balls, Yael parodie les concours de beauté de l'élite blanche, leurs postures et leurs gestuels, en prenant des poses très maniérées. Et c'est comme ça que naît le voguing. Bon, c'est un méga résumé, et c'est beaucoup plus intéressant que ça, et plus compliqué. Mais retour à la biennale que je googlise pour checker la programmation. Et ça a l'air super intéressant. Des artistes queer, racisés, militants et militantes qui parlent de leur lutte. Et je devrais me réjouir que les couples en décapotable assistent à une perf de voguing plutôt qu'à un meeting de LR. Je vois que la biennale est portée par une asso locale, supportée par de grandes institutions publiques comme le Fonds Régional d'Art Contemporain et le Ministère de la Culture, et par des partenaires privés, dont le premier est Sotheby Corsica, une agence de biens immobiliers de luxe. Et revoilà l'envie de vomir la focaccia mortadelle pesto sur les mocassins de cuir. Mon binôme de vacances se fait virer de son appart qui est racheté par un groupe immobilier qui va en faire des apparts pour le touriste de luxe. Il est confronté à la galère de l'accès au logement à Marseille, dont la gentrification a été explosive. Pour louer une passoire thermique qui semble proche de l'effondrement, il faut gagner au moins 1800 euros par mois, avoir un CDI, des parents riches et garants, des attestations de tes anciens propriétaires et de ton patron qui disent que tu es une personne recommandable, les moyens de payer la caution, etc. Et là, ce soir, devant le coucher de soleil sur les falaises de Bonifacio, au son des DJ qui ont pris la suite de la performance, avec une bière fraîche et gratuite dans les mains, l'absurdité du monde me paraît à son comble. Et je me dis que si à la collective on a la digestion difficile, c'est pas le cas de Sotheby Corsica, qui est en train de dévorer sous nos yeux, tranquille ou bilou, tout un pan dans l'histoire des luttes queer. Ça en est trop. Puis de toute façon, il n'y a plus de focaccia et la bière est devenue payante. On quitte Ninou dormi pour aller dormir. Sur la route, j'écoute les infos et ça parle des, entre guillemets, débordements d'une jeunesse qui fête la victoire du PSG. Ça parle des, nouveaux guillemets, débordements d'une jeunesse qui fait la fête en free party. Et je me demande si Sotheby Corsica et le ministère de la Culture, qui aiment tant la fête et la révolution, vont mouiller le maillot pour soutenir aussi cette jeunesse-là. Je crois que c'est pour ça que je me méfie de la dimension politique et de la fête et de la joie. Il me semble que le capitalisme peut s'en emparer très facilement, n'en conservant qu'une citation vide à afficher sur les murs d'une ville dévorée par le tourisme. Et là, mon cerveau fait un pont peut-être un peu hors sujet. C'est un peu flou, je suis pas très sûre de mon coup, et peut-être que je changerai d'avis un moment. Mais je crois que c'est ça qui me gratouille aussi dans tout ce qu'on va qualifier d'éminemment politique, et donc qui n'a pas l'air si politique au premier abord. Le pole dance, le tricot, la boxe, la fête, le polyamour, etc. J'ai absolument rien contre toutes ces activités, et même plutôt de l'intérêt pour certaines. Et bien sûr qu'elles sont politiques, mais je dirais pas qu'elles sont éminemment politiques. Je crois que je voudrais qu'on fasse une différence entre des choses qui nous portent, qui nous tiennent, qui nous font vibrer, et qui sont incontestablement politiques, et des choses qui sont éminemment politiques, dans le sens où ce sont véritablement nos objets de lutte. Par exemple, l'accès au logement, à la santé, à la nourriture, la lutte contre le fascisme, contre la gentrification, pour l'écologie, contre le génocide à Gaza, contre l'impérialisme. Et la fête, la joie, le polyamour, la boxe, le tricot, l'amour des border collie et le pole dance seraient des trucs qui nous permettent de nous recharger, de trouver de l'énergie. Ça serait une esthétique qui nous rend plus forts et fortes. Ce serait des moyens de nous lier, de rire, de kiffer. Mais je voudrais que ça ne devienne pas l'essence de nos luttes. Et voilà, les vacances à Vanesse sont en train de devenir la morale à Tati Ronchonne. Mais heureusement, à cet instant, Hello rajoute sa disserte sur le pad, interrompant le flux de mes jérémiades, c'est dur à dire. Et me voilà super émue par sa chronique, et je me dis « mais oui, mais grave, mais tellement ». Et je me dis que j'ai même pas parlé de ce qui me porte, et je me dis que ça va, parce qu'Hello l'a fait tellement bien et que je suis refaite d'une telle connexion. Et je me dis que ce qui me porte, mis à part le mauvais esprit et les border collies, c'est d'avoir Hello et Alizé en amis et en camarades de lutte.
Alors l'artiste invite le regardeur à se saisir littéralement d'un des pavés, objet de l'espace rue qu'elle a rapporté dans l'espace muséal. Dans ce geste qui rappelle évidemment mai 68, l'artiste voudrait convoquer la question de la lutte et du rapport au pouvoir. L'artiste encourage également à sortir de l'espace de monstration en emportant un des pavés. Dans cette invitation à la transgression, l'artiste donne à voir un retournement du ready-made et dans un même temps fait un pied de nez aux institutions et au monde de l'art qui sacralise l'œuvre. Puis l'artiste encourage le visiteur à enfiler cette cagoule afin de ne pas être reconnu, avant de jeter l'œuvre dans la vitrine de cette banque. Enfin, l'artiste suggère aux spectateurs devenus acteurs de courir le plus vite possible et de refuser la comparution immédiate en cas d'arrestation.
On voulait profiter de l'émission pour remercier et féliciter l'équipe qui a organisé la Pride d'Aubenas le 6 juin dernier. C'était une belle journée de mobilisation qui nous a rechargé les batteries et on sait le travail que ça représente d'organiser tout ça, bravo.
Et avant de vous quitter, on a une grande annonce à vous faire. Alors non, on ne se présente pas au présidentiel, c'est encore mieux, on a enfin un audioblog avec toutes les émissions faites depuis le début de la collective. Donc vous pouvez dès à présent vous y rendre afin de constater nos progrès colossaux en improvisation, nous écouter en boucle pour vous endormir ou partager vos émissions préférées avec vos amis ou animaux non humains. On vous met bien sûr le lien dans la description de l'émission à retrouver, comme d'habitude et comme toutes celles de la saison, sur le site de Fréquence 7, dans la rubrique « Au-delà de l'actu ». Fréquence 7, formidable radio qui produit l'émission et on profite de l'occasion pour les remercier chaleureusement. Soutenez vos radios locales, ce sont des outils indispensables et leur existence est menacée chaque année par les coupes budgétaires. On en profite aussi pour dire un grand merci à Clara qui a enregistré bénévolement toutes les émissions de la saison et un grand bravo aussi à l'équipe salariée qui tient la radio à bout de bras. Et puis merci à Justine aussi de nous avoir permis de retrouver la chanson « La fête nulle » de Alice. On se retrouve à la rentrée et après cette ode à la joie, pour ne pas risquer de vous noyer dans tant de bonheur, on vous prépare une émission autour de cancer colère. D'ici là, on vous souhaite un été joyeux et déterminé et puis on entre en campagne. En 2027, on votera vulve du 9-3.
La vraie question, c'est pas où on va trouver la moula. Il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
La vraie question, c'est quand on aura viré les Richard. Et Booba l'avait dit en premier, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards?
Faire de tous ces milliards, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards?
Et bientôt la retraite sans parler des congés payés. Et s'il y a de la neige, on ira
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien sur le moment. Elle dit « Mais la révolution fera le ménage ».